Le quart d'heure corrézien, votre magazine d'information hebdomadaire.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première édition du quart d'heure corrézien. Bonjour Thomas Vandendrich.
Bonjour Olivier.
Cette émission, nous l'avons conçue comme une mise en lumière de sujets qui font l'actualité en Corrèze en ce moment. Et cette semaine, nous avons fait le choix de vous parler de deux sujets qui nous paraissent primordiaux. La gestion des déchets. Vous entendrez comment ça se passe, comment se passe la vie dans une déchetterie, mais aussi comment des collégiens tullistes se mobilisent pour réduire leur production de déchets. Nous recevrons aussi Stéphanie Vallée, présidente adjointe de l'agglo de Tulle, en charge de la gestion des déchets. Et puis, deuxième sujet de la semaine, c'est la lutte contre les violences conjugales. Nous verrons comment la prise en charge des victimes a évolué au cours des dernières années en Corrèze, mais aussi ce qui est mis en place pour accompagner les auteurs de violences conjugales vers une meilleure prise en compte de leurs violences. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti.
Vous écoutez toujours le quart d'heure corrézien sur RGB et Bram FM.
Cette semaine est une semaine particulière parce que c'est la semaine européenne des réductions de déchets. Thomas, tu es allé au collège Victor Hugo à Tulle, un collège qui s'est emparé de cette semaine particulière.
Oui, en effet, Olivier, les élèves et les enseignants ont décidé de mettre en place des actions. Ces actions ont pour but de sensibiliser l'ensemble du collège sur les moyens d'agir pour réduire nos déchets. Romain Gilly est professeur d'SVT à Victor Hugo.
On avait une intervention au self par les éco-délégués pour sensibiliser à l'efficacité sur le tri, puisqu'au niveau de la table de tri, les élèves étaient parfois un petit peu négligents, et sensibiliser également au gâchis du pain. Il y a une pesée des déchets aussi en sortie de celle qui est réalisée pour voir la quantité de matière organique, donc de gaspillage alimentaire qui est réalisé. Donc ça sera fait tout au long de la semaine pour qu'à la fin on ait une somme et une idée de la quantité de déchets au niveau du collège.
Et donc cette semaine, combien de pains ont été gaspillés à Victor Hugo ?
En gros, ce gaspillage de pain, rien que pour le collège Victor Hugo, c'est environ 20 euros par semaine. Mais attention, quand on parle de lutte contre les déchets, certes, on pense au gaspillage alimentaire, mais il y a aussi d'autres types de gaspillage, c'est le gaspillage vestimentaire notamment. Et pour éviter que les vêtements ne finissent à la poubelle, les jeunes ont monté le projet d'une friperie solidaire. Ces habits sont vendus dans le collège et les bénéfices sont reversés à la SPA, une association que les élèves ont eux-mêmes choisie. Autre projet pour recycler ces vêtements, c'est de fabriquer des éponges, comme l'explique Lucas.
On a essayé de demander à des élèves s'ils voulaient venir. C'est pour fabriquer des éponges à partir de vêtements qui ne peuvent pas être revendus dans une friperie ou donnés parce qu'ils sont trop abîmés. Donc du coup, on va s'en servir pour en faire des éponges.
Et ces éponges sont fabriquées sur la méthode japonaise Tawashi. En clair, on récupère des bouts de tissu qu'on tisse les uns aux autres pour fabriquer cette éponge que les jeunes peuvent récupérer chez eux. D'ailleurs, il existe plein de tutos en vidéo sur YouTube.
Super Thomas, mais est-ce que ça a un véritable impact pour les adolescents ?
Eh bien, à croire Romain Gilly, oui.
Dans le but de sensibiliser les élèves donc au recyclage possible du textile, diminuer la pression sur la fast fashion et se dire que les habits de seconde main, ça peut être une solution à la fois économique et écologique. Globalement, les jeunes répondent bien aux projets qu'on leur propose.
Autant dire que c'est ultra important en ce moment, alors que nous sommes assommés de pubs pour le Black Friday.
Donc si je comprends bien, les plus jeunes sont de plus en plus sensibilisés et sensibles à la question de la gestion des déchets. Mais pour nous, les adultes, est-ce que c'est vraiment le cas ?
Eh bien, on a posé la question à Patrick Monteil, c'est le technicien en charge de la gestion de la déchetterie de Chamboulive.
Moi, je suis là depuis l'ouverture. Depuis 90, on a vécu 3 ans d'enfer, les 3 ans du Covid, où on a vraiment eu des pics de déchets et vraiment énormes, mais énormes. Maintenant, c'est en train de se calmer un peu, mais ça, bon, tu le vois sur les déchetteries. Que le corrézien trie moins. Il faut que tu sois vraiment à leur écoute pour qu'ils trient. Il faut que tu les encadres. Il faut que tu sois en permanence avec eux. Si tu veux que le corrézien trie bien, il faut que tu sois en permanence avec eux. Il faut faire un travail de proximité. Il faut être à l'écoute des gens en tant que gardien de déchetterie. Moi, je sais que je suis à l'écoute de tout le monde. Il faut être à l'écoute autant de la mamie que de la personne qui arrive tout juste. Expliquer comment ça marche.
Un accompagnement d'autant plus important que des usagers comme Michel se posent parfois des questions.
Oui, mais bon, c'est bien beau de faire composter, mais bon, pour avoir des jardins, il faut avoir, vous couper des branches, vous en faites quoi ? On n'a plus le droit de faire brûler. Ben oui, mais...
Stéphanie Vallée, bonjour.
Bonjour.
Alors, on n'a plus le droit de brûler ces déchets, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le changement de mentalité en matière de gestion des déchets, vous qui êtes en charge de ça à l'agglomération de Tulle ?
Alors effectivement, on n'a plus le droit de brûler ces déchets. C'est pourquoi l'agglomération a mis en place des opérations nouvelles à destination des communes, de façon à ce qu'il soit organisé du broyage des végétaux dans chaque commune qui est volontaire. Donc effectivement, ça ne se fait pas dans toutes les communes, puisque tout le monde doit être volontaire pour effectuer ce broyage itinérant, de façon à ce que les habitants puissent amener ou, en fonction des communes, faire du broyage en porte-à-porte. Donc nous avons le matériel que nous mettons à disposition des communes, donc des gros broyeurs professionnels. Et puis nous organisons, enfin sur Tulle est organisé différemment, puisqu'il y avait jusqu'à présent une collecte de déchets verts, et nous proposons, nous avons fait une expérimentation sur quelques quartiers, et bientôt nous allons pouvoir proposer une substitution de cette collecte qui n'était pas efficiente pour l'ensemble des habitants, et nous allons faire à demande du broyage chez les particuliers.
Et alors, se pose la question du dépôt sauvage, parce que on n'a pas pu l'entendre, mais on a réussi à le recueillir. Patrick Montaigne nous disait qu'il y avait notamment des dépôts sauvages devant le portail de la déchetterie, et on en retrouve beaucoup aussi dans les forêts ou des choses comme ça. Se pose la question des moyens d'action que vous avez, et, en partenariat avec les communes et les gendarmeries, pour empêcher ces dépôts sauvages ou les réprimander.
Alors effectivement, il y a deux types de dépôts sauvages. Ils sont en augmentation en ce moment en France, on va dire. Mais ça a toujours existé. Toutes ces incivilités ont toujours existé. Donc deux types, je disais, ceux qui sont déposés dans les bois, dans les forêts ou dans les fossés. Et puis ceux qui sont amenés à proximité de nos points d'apport volontaires. Nous réfléchissons et il n'est pas exclu que certains points soient équipés en caméra vidéo, parce que, comme vous le savez, il nous faut connaître l'auteur des faits pour qu'il puisse être réprimandé. Mais tout cela, effectivement, est réprimandable et des amendes sont prévues à cet effet. Et tout cela est effectivement, pour l'instant, de la responsabilité du pouvoir de police de chaque maire.
Et alors, il y a aussi un travail de sensibilisation qui peut être fait pour éviter en amont ces incivilités des sensibilisations auprès des adultes, mais aussi auprès des enfants. On a pu l'entendre tout à l'heure avec le professeur d'SVT du collège Victor Hugo à Tulle, qui nous expliquait un peu les actions qu'ils mettent en place. Est-ce que vous en mettez en place aussi à l'agglomération auprès des enfants ?
Alors oui, bien sûr, nous avons tout un programme de prévention à destination des enfants. Nous organisons avec les écoles élémentaires du territoire des animations sur le thème des déchets et du tri sélectif des déchets, des animations sur le thème des biodéchets, le compostage et le broyage des végétaux, des visites de déchetterie et puis aussi des visites de notre centre technique de Naves. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Nous allons organiser en partenariat avec les associations environnementales des campagnes de sensibilisation des citoyens pour nettoyer la nature et par rapport à la problématique des dépôts sauvages. Parce qu'on a, si on ne trouve pas les auteurs des faits, on a peu de moyens d'action et c'est sur la prévention que nous allons miser en 2023.
Et alors, est-ce que ces moyens de sensibilisation marchent finalement ?
C'est un des meilleurs leviers à partir du moment où le citoyen est sensibilisé à ces pollutions. Et les adultes, mais aussi les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir, et c'est par eux que passera cette bonne parole. Je pense que les actions de sensibilisation sont essentielles.
Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Vallée pour vos réponses et d'avoir été ici avec nous. Vous pouvez rester d'ailleurs avec nous, parce que dans quelques instants, on va parler d'un tout autre sujet avec Olivier.
Vous écoutez toujours le quart d'heure corrézien sur RGB et Bram FM.
C'est l'autre sujet de la semaine, celui des violences conjugales. Ce vendredi, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Olivier, tu as cherché à comprendre comment ce problème était traité en Corrèze. Et pour cela, nous avons donné la parole à Jeanne Itangu. C'est la directrice de l'association corrézienne SOS Violences Conjugales.
Oui, et selon Jeanne Itangu, si le mouvement MeToo a permis de libérer une grande partie de la parole des femmes, il reste encore des situations qui sont tues.
femmes sont souvent enfermées dans tout un mécanisme de violence, dans tout un mécanisme d'emprise qui va venir verrouiller et les emprisonner dans un silence de plomb. Les personnes qui en sont victimes, sur une certaine période, ne sont pas toujours conscientes, en fait, qu'elles sont victimes d'une relation de violence, d'une relation qui est quelque part extraordinaire et qui n'est pas ni banale ni normale.
MeToo a participé à un éveil des consciences, notamment auprès des professionnels.
Les médecins, les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux, il y a un certain nombre de professionnels qui sont beaucoup plus au fait de la question des violences faites aux femmes et qui sont davantage amenés à pouvoir être formés, à pouvoir être sensibilisés sur le terrain et qui du coup gagnent en possibilité de pouvoir mieux repérer, mieux identifier des situations à risque ou des situations de violence.
L'enjeu étant pour SOS Violence Conjugale d'accompagner au mieux les victimes dans leur parcours.
Il y a un certain nombre en fait de dispositifs, je pense notamment au téléphone grave danger, au bracelet anti-rapprochement, qui sont des dispositifs qui fonctionnent de façon très active sur notre département en Corrèze et qui permettent très concrètement de pouvoir sécuriser et protéger un certain nombre de victimes.
Néanmoins, depuis la fin des confinements, SOS Violence Conjugale note une véritable précarité des situations en Corrèze, des situations qui dans certains cas voient la violence s'intensifier dans un huis clos familial.
J'ajoute que l'interview de Jeannie Tanguy est à réécouter en longueur sur le site de bramfm.com. La directrice de SOS Violence Conjugale était l'invitée de Vous êtes ici jeudi dernier avec Eve Hermary. Donc Olivier, on l'aura compris, les mentalités changent et la prise en charge des victimes de violences conjugales s'améliore. Mais qu'en est-il de la prise en charge des auteurs de ces violences ?
Eh bien, soit de son plein gré, l'auteur se présente auprès d'une structure, soit c'est la justice qui le lui impose. C'est ce que nous a précisé Laure Gaillet, la directrice de la RAVIC, l'association d'aide à la réinsertion de délinquants et d'aide aux victimes.
Si on veut justement un peu éradiquer ou faire en sorte que l'on ait moins de problèmes de violence conjugale, il faut à la fois soutenir la victime et on doit aussi soutenir l'auteur parce que la personne qui en arrive là en général, c'est pas par hasard. Il y a aussi voilà de la souffrance, des traumatismes, des choses qui ont été vécues par le passé qui font qu'ils n'ont pas d'autres moyens de gérer parfois par exemple une frustration qu'en passant par la violence. Oui, on peut considérer que c'est comme une maladie parce que ça se soigne en tant que tel, mais ce n'est pas des gens qui présentent forcément des pathologies psychiatriques.
Reste que selon les profils, le travail peut être plus ou moins long, parce que si chaque individu est unique, les réactions diffèrent d'un individu à l'autre.
Sur la base de la contrainte judiciaire, donc qui nous sont orientées concrètement par la justice dans le cadre d'une mesure précise, par exemple, ils vont être jugés dans 2 ou 3 mois, ils sont placés sous contrôle judiciaire, et donc durant ce délai-là, ils seront suivis par un intervenant socio-judiciaire de l'association qui va travailler avec eux sur un accompagnement socio-judiciaire avec du coup des relais par rapport à leurs besoins sociaux, professionnels, s'il y a des obligations de soins à mettre en place, vérifier que toutes les interdictions, obligations sont bien respectées, puis travailler sur le passage à l'acte en fait. Pourquoi on en arrive là ?
Et aujourd'hui en Corrèze, seul la RAVIC présente à Brive, Tulle et Ussel est en mesure de proposer un accompagnement personnalisé aux auteurs de violences conjugales.
Merci Olivier, et on le rappelle, si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, n'hésitez pas à appeler le 3919, c'est le numéro de la plateforme de prise en charge des victimes, plateforme joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes au terme de ce quart d'heure corrézien, merci à vous de nous avoir suivis, merci beaucoup à Stéphanie Vallée d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'était la première édition du quart d'heure corrézien, une émission co-réalisée par Bram FM et RGB. Merci à Eve Hermary, Philippe d'Hauteville et Isabelle Védrenne pour leur soutien. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour le deuxième numéro. En attendant, vous pouvez nous faire part de vos réactions et de vos ressentis sur les réseaux sociaux de Bram FM et RGB.